Docteur Michaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Évidemment, on va revenir aux causes parce que ça me semble être la base pour comprendre le phénomène, cette épidémie de myopie-là. Mais tout d'abord, je veux vous revenir sur le fait que le trouble de vision, qu'est la myopie, se développerait plus rapidement. En quoi c'est inquiétant, bien sûr, chez l'enfant, là?
Bon, évidemment, la myopie, c'est le fait qu'on ne voit pas de loin. Et on voyait cette anomalie de la vision se développer vers 12, 13, 14 ans, donc à la période de puberté, mm-hmm. de façon générale, de tout temps, là, ou à peu près. Mais dans les 20 dernières années, effectivement, comme vous avez mentionné, on voit des enfants de 6, 7, 8 ans, 9 ans, arriver avec des bonnes myopies déjà bien installées. Donc, on parle de 2 dioptries, 3 dioptries, donc 2 degrés, 3 degrés de myopie. Et... Mm-hmm. Ce qui est préoccupant dans ce phénomène-là, c'est qu'on sait qu'avec la croissance, nécessairement, la myopie va évoluer. Et donc, si on part plus tôt...
On est déjà à moins 3 ou quelque chose comme ça.
Alors, on va atteindre un niveau, et c'est là que l'Organisation mondiale de la santé est préoccupée, c'est qu'on atteint des niveaux de myopie qu'on appelle pathologiques, donc où on peut développer des anomalies au niveau de la vision et de la santé de l'œil de façon importante.
À partir de quel degré de myopie ça devient particulièrement inquiétant?
Autour de 6 dioptries. Donc, si on est déjà à 2 ou à 3 degrés de myopie à 8 ans, la moyenne, on va perdre un quart à un demi si on fait rien, là, un quart à un demi degré de myopie par année. Et la myopie arrête à la fin de la croissance, sinon à la fin des études, parce qu'on mm-hmm. voit les gens qui poursuivent à l'université, même des doctorats, des maîtrises, tant et aussi longtemps qu'ils sont aux études, on voit la myopie continuer à évoluer. Donc, c'est certain qu'on va développer une myopie plus grande que 6. Et à ce moment-là, on a 20 % de plus de risque de développer des maladies comme le glaucome, comme des déchirures de rétine, ou d'avoir des bris à l'intérieur de la rétine qui affectent notre point de meilleure vision. Mm-hmm. Parce qu'un œil, on a tous le même œil. Quand on devient myope, l'œil s'agrandit, s'étire. Alors, c'est comme si tout le monde avait la même chemise, et que certains d'entre nous qui prenaient 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos. Alors évidemment, les coutures et les boutons ne résisteront pas très longtemps là-dessus. Alors ça va faire des craquelures, ça va faire des bris, ça va faire des dommages à la structure même. C'est ce qui arrive à l'œil. Mm-hmm. Plus il est étiré, plus il va y avoir des dommages qui vont se produire. Et c'est là que la vision peut être altérée, même dans certains pays asiatiques.
98 %
de la population. Et la myopie est devenue la deuxième cause de cécité dans ces populations-là. Donc, ça veut dire que les gens sont légalement incapables de fonctionner avec une vision normale parce que leur rétine est trop altérée par leur fort degré de myopie.
Et ce n'est pas à cause d'un vieillissement dit normal. Ça arrive, non. Ça se survient plus tôt dans la vie.
Ça survient plus tôt dans la vie et notamment dans les populations asiatiques, mais même en Amérique du Nord, l'hérédité joue beaucoup, l'environnement, la façon qu'on utilise nos yeux. Mm-hmm. On est des animaux qui s'adaptent à notre environnement, mais notre environnement change trop vite pour notre capacité d'adaptation. Alors, effectivement, on a plusieurs facteurs qui jouent contre nous là-dedans.
Oui, vous en venez aux causes, donc, Dr Michaud, à savoir que peut-être on n'est pas fait encore l'humain pour utiliser autant de technologies à longueur de journée.
Tout à fait. La technologie en soi est une chose. Évidemment, il n'y a pas de rayon nocif qui émane des tablettes ou des téléphones intelligents ou quoi que ce soit. C'est plus l'utilisation qu'on en fait. On se lève le matin, on consulte notre téléphone. Je lisais que les jeunes adultes, 40 % dorment avec leur téléphone, oui. ce qui est un peu aberrant. Donc, première chose qu'on consulte, après ça, on se met sur la tablette pour lire nos nouvelles du matin. On arrive au bureau, on passe 8 heures par jour devant l'ordinateur. On revient à la maison le soir, on reconsulte téléphone et tablette. Et c'est incessant de cette façon-là. Donc, on utilise beaucoup nos yeux pour voir de près. Et c'est pas toujours la même vision que sur un papier ou un papier journal ou quoi que ce soit. C'est un peu comme je vous dirais, on demande à notre système visuel, quand on est dans cet état-là, de faire une course de 1000 mètres, mais en s'arrêtant à toutes les 200 mètres ou à toutes les 20 mètres et en changeant de vitesse. Un petit bout vite, un petit bout lent, un petit bout moyen. Donc, on va arriver fatigué au bout de notre 1000 mètres. Alors que la vision normale et naturelle de l'être humain, c'est de faire le 1000 mètres à peu près toujours de la même façon et donc sans fatigue. Quand on est à l'extérieur, par exemple, notre œil ne focalise pas à toutes sortes de distances. Quand on est sur une tablette, on focalise sur la tablette, on focalise quelque chose d'un peu plus près, on focalise la télé, on focalise quelqu'un qui rentre dans la pièce.
Donc, c'est ça qui fatigue notre vue, c'est de s'ajuster sans cesse.
C'est les multiples ajustements sans cesse qui se font. Et ça, c'est un facteur, évidemment. Et là, la génétique joue. Il y a certains qui sont plus tolérants à cette gymnastique-là que d'autres. Il y a des expériences intéressantes qui ont été faites en Asie, notamment, où on a placé deux cohortes d'enfants similairement myopes, là, exactement la même tendance à être myope, même famille, ou à peu près même récit, dans la même école, dans le même village. Et on a dit, classe régulière pour tout le monde, ce qui veut dire de 7h le matin à 10h le soir, mm-hmm. avec les tuteurs et tout ça. Et l'autre classe à côté, on va les faire jouer dehors une heure. Et la réponse au bout d'un an, c'est que ceux qui avaient joué dehors pendant une heure avaient 30% moins de myopie, de progression de myopie que les autres.
On a réussi à ralentir.
On a réussi à ralentir. Donc, un des premiers facteurs, si on veut ralentir la progression de myopie, on n'est pas en Asie, on est en Amérique du Nord, mais les mêmes facteurs s'appliquent.
Réduire le temps écran.
Réduire le temps écran. Travailler sur l'ergonomie de notre poste de travail, c'est-à-dire les distances sur lesquelles on doit travailler pour essayer de les équilibrer le plus possible. Vraiment, pour les enfants, vraiment limiter le temps passé là-dessus. Allons jouer dehors. Allons s'amuser dehors. Les feuilles d'automne sont encore là. Ils annoncent très beau dans les prochaines journées. Alors, c'est le moment idéal d'aller faire ça.
Revoir un peu nos habitudes de vie, finalement, nos comportements.
Tout à fait.
Vous êtes président de l'Ordre des optométristes du Québec, Dr. Langis Michaud. J'imagine que vos confrères sont bien sûr aiguillés sur le problème, mais le grand public, pas tant que ça. Comment on fait pour transmettre ce message-là?
On commence à en parler grâce à une émission comme la vôtre. Mmh. Évidemment, le message se fait peu à peu. Nos professionnels sont sensibilisés de plus en plus à cette chose-là. Comme je vous dis, il y en a certains qui vont considérer que c'est tout à fait banal. On corrige ça avec une lunette ou avec un verre de contact et c'est correct. Maintenant, on sait qu'il y a des moyens de ralentir la progression, et notamment dans les cas où on voit qu'il y a une évolution plus rapide que normale. Mm-hmm. Donc, il y a des lentilles de contact spécialisées, il y a des verres spécialisés, il y a des médicaments qu'on peut donner à l'enfant. Et avec un suivi approprié, évidemment, on peut ralentir et jusqu'à 80-90% mm-hmm. la progression d'une myopie. Ce qui fait la différence, le but, c'est pas d'arrêter complètement, parce qu'évidemment, il y a une croissance normale de l'être humain, c'est de dire, on va maintenir l'enfant dans une zone sécuritaire pour la santé de son œil. Donc, on va essayer de rester en dedans du 6 dioptrie. On va essayer qu'il va partir de moins 2, mais qu'il n'ira pas plus loin que moins 4 ou moins 5 mm-hmm. À la fin de sa croissance. Et c'est ça vraiment l'enjeu. C'est là-dessus qu'on travaille. Et il y a de plus en plus de produits qui sont disponibles. Il y a énormément d'investissements en recherche qui se fait là-dessus actuellement. Je connais au moins 300 universitaires à travers l'Amérique du Nord qui font des grandes recherches là-dessus. En Australie, il y a un centre dédié à ça. En Asie, la même chose. Alors, il y a beaucoup d'efforts mondiaux qui est fait pour trouver une réponse à cette épidémie-là. Parce qu'évidemment, on ne veut pas que nos enfants, que notre population en général devienne avec une cécité myopique.
Et des handicaps visuels.
Exact.
Maintenant, je reviens un petit peu à ces façons de réfréner la myopie chez notre enfant. Est-ce que le port de lunettes, de lentilles peut vraiment aider? Est-ce que de corriger la myopie va aider à réfréner le trouble?
Il y a plusieurs choses qui ont été essayées. Première technique qui a été essayée, notamment en Asie, encore une fois, parce qu'évidemment, ils ont plus de myopes que n'importe où ailleurs, ça a été de sous-corriger. C'est-à-dire vous êtes myope de 2, on va vous donner 1,50 pour essayer de relaxer, entre guillemets, le système visuel, devenir un peu moins dépendant. Et ça, c'est une erreur totale parce qu'on s'aperçoit que non seulement ça ne réussit pas à freiner, mais au contraire, ça encourage la myopie à aller beaucoup plus loin que ce qu'elle aurait été. Donc, il ne faut jamais sous-corriger, premièrement. La correction en verre ordinaire, on sait maintenant que ça marche plus ou moins parce qu'un verre de lunettes, ça a une surface géométrique qui est droite. L'œil, il est courbé. Mm-hmm. Donc, si la lumière formée à travers une lunette va être comme un écran de cinéma, si vous voulez, bien droit, alors que si vous avez une salle qui est en rond, qui regarde l'écran, il y a certains endroits qui sont plus éloignés que d'autres. Donc, l'image formée par ma lunette, il y a certains endroits qui sont affoyés, je vois bien, mais il y a certains endroits en périphérie de l'œil qui sont plus éloignés et c'est complètement hors focus. C'est ce hors focus qui serait une des raisons pourquoi l'œil cherche à grandir. Donc, il faut aller avec des verres spécialisés qui permettent de courber un peu l'image qu'on forme au fond de notre œil pour lui faire épouser la forme de l'œil et même un petit peu plus que ça pour ralentir ce stimulus, cette perte de focalisation qui stimule la croissance de l'œil. Donc, il y a des méthodes optiques donc, qu'on peut travailler. On a essayé des doubles foyers. Donc, les gens qui sont presbytes savent très bien à 45 ans, soit un foyer progressif ou en ancien temps, on avait des foyers, là, la lunette coupée en deux un peu, là, qui permettait d'avoir une partie pour le proche et une partie pour le loin. Ça peut marcher à condition qu'on contrôle bien où l'œil regarde. Mais pour un enfant, c'est très difficile de contrôler là où il va regarder. Souvent, d'instinct, il va regarder dans le haut de sa lunette plutôt que dans le bas. Donc, ça marche plus ou moins. C'est pour ça que de nos jours, il est à peu près reconnu que le verre de contact spécialisé, qui permet donc de faire différentes focalisations dans l'œil, marche.
Mais découvrir, là, si je comprends bien,
découvrir
la
périphérie, c'est ça, le centre et la périphérie. Mm-hmm. Donc, on moule l'image à la forme de l'œil. Il y a un autre verre de contact qui est un verre rigide qu'on porte la nuit, qui est de l'orthokératologie, qu'on appelle. Là, c'est la surface même de l'œil qu'on moule pour créer cet effet optique. En faisant un moulage approprié, on peut bien focaliser l'image là où elle doit être focalisée pour qu'on voit clair, mais on peut aussi orienter vers la périphérie de l'œil pour que l'image suive la courbe de l'œil.
Et à partir de 7-8 ans, je pense qu'un enfant peut porter des lentilles.
Tout à fait, de façon sécuritaire. Évidemment, ça prend toujours la supervision des parents. Là,
Et aussi l'enfant qui ne porte pas ses lunettes, parce que bon, c'est facile de partir à l'école rapidement ou dans les activités sportives. On ne met pas les verres correcteurs. Il faut que le parent ait un suivi adéquat.
Oui, puis il y a un côté social aussi, un côté estime de soi, il y a un côté esthétique. Quelqu'un qui est très myope a des verres, évidemment, même si on les amincit, quand même un petit peu différents des autres. Alors, souvent, l'enfant ne veut pas les porter face à ses copains. Alors, la lentille de contact, surtout spécialisée, là, va venir aider à solutionner ce problème-là.
On pourrait penser à, justement, pour le volet esthétique, d'aller vers la chirurgie laser, mais c'est peut-être pas approprié pour des enfants.
C'est pas approprié pour des enfants parce que la première condition, il faut avoir donné, évidemment, il faut donner un consentement légal à être adulte avoir quelqu'un qui donne le consentement pour nous, bien évidemment, mais il faut que la myopie soit stable. C'est le premier critère pour recourir à une chirurgie réfractive. Alors, tant et aussi longtemps que la myopie est en évolution, on ne peut pas penser à cette technique-là. Deuxième élément, la chirurgie réfractive ne va corriger optiquement comme une lunette, c'est-à-dire qu'elle va créer une image plane au fond d'œil qui ne correspondra pas justement à cette perte de focus en périphérie. On va donc avoir exactement le même résultat que si on corrigeait avec une lunette ordinaire ou avec un verre de contact ordinaire. Donc, la myopie va continuer à progresser.
C'est ça.
C'est pas une réponse. Une fois que la myopie est stable, par contre, pour des myopies moyennes, jusqu'à 6-7 dioptries, ça peut être une alternative intéressante. Mais il faut que la myopie soit stable.
Est-ce que la myopie se stabilise automatiquement à l'âge adulte lorsque la croissance est terminée?
En théorie, oui. C'est ce qu'on voyait beaucoup par le passé. Remarquez qu'on voit des adultes devenir myopes. Par exemple, quelqu'un qui était manœuvre dans une usine, qui est promu contremaître et qui va faire du travail de bureau sur ordinateur maintenant pendant 8 heures par jour, on voit des gens arriver dans nos cabinets avec des myopies qui commencent alors qu'ils n'étaient pas myopes. C'est relativement nouveau aussi.
Et de là, ce phénomène d'épidémie de myopie qui devient une situation assez préoccupante. Là.
Mais évidemment, l'adulte qui commence une myopie à 30 ans, on s'entend que l'évolution ne m'inquiète pas pour qu'il développe une pathologie au fond d'œil.
Mm-hmm.
C'est plus chez les enfants que ça nous inquiète. Oui. Remarquez que ça nous en dit quand même beaucoup sur l'environnement dans lequel on se place et avec lequel on travaille avec nos yeux.
Oui. Avant de terminer, je veux parler de diagnostic précoce.
Oui.
Est-ce qu'il y a des interventions en milieu scolaire, des optométristes qui vont sur le terrain, font des examens? Ça existait, moi, quand j'étais jeune. Est-ce que l'on continue cette vague-là afin de pouvoir diagnostiquer? Parce que j'imagine que c'est un facteur là, pour réfréner la myopie.
Malheureusement, l'austérité a frappé il y a bien longtemps ce volet-là au niveau des écoles et les infirmières scolaires sont débordées. Les techniques de dépistage vont identifier la myopie, bien sûr, mais n'identifient pas tous les autres problèmes visuels qui sont pourtant très fonctionnel. Les yeux, c'est 80 % de l'apprentissage. Et l'enfant, très souvent, il y a seulement 15 % des enfants qui sont examinés avant d'entrer à l'école. Alors, au-delà des dépistages, je pense que la recommandation à la population, en tout cas, de l'ordre des optométristes, ce qu'on recommande, c'est un premier examen à 3 ans. Si tout va bien, le deuxième examen à 5 ans, il y a toutes les années du primaire, parce que ça peut changer rapidement avec la croissance de l'enfant. Parce qu'il n'y a pas juste le fait de ne pas bien voir, il y a le fait que les yeux ne sont pas bien coordonnés, il y a l'effet que les yeux peuvent fatiguer vite, les yeux forcent trop pour lire, les yeux ne suivent pas bien un texte. Alors, il y a plein de choses qu'on peut déterminer en termes de difficultés d'apprentissage et qui peuvent aider l'enfant à avoir une réussite scolaire plutôt que de le conduire au décrochage.
Réussite scolaire, intégration, estime personnelle, vraiment, la vision, c'est lié à plein de facteurs de la vie. Et après, à l'âge adulte, là, c'est vraiment tout l'investissement qu'on peut avoir dans une société.
Comme parent, on peut faire une très, très grande différence dans l'avenir de notre enfant si on lui assure d'avoir les premiers outils qui sont nécessaires à son apprentissage, c'est-à-dire des bons yeux en santé, bien coordonnés.
Mm-hmm. En terminant, Dr Michaud, je pense que l'Université de Montréal est associée à une vaste étude qui est également là, liée à plein d'autres chercheurs partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette étude-là?
Très rapidement, oui. On teste actuellement justement une nouvelle lentille cornéenne pour le contrôle de la myopie avec un fabricant mondial. Évidemment, il y a des centres partout à travers le monde, en Europe, en Angleterre, en Asie, en Australie, aux États-Unis. Il y a nous et Waterloo qui ont été recrutés au Canada. On a une douzaine de patients qu'on suit actuellement avec cette modalité-là. On a commencé il y a quelques mois et l'étude va durer 3 ans. Alors, on va voir si cette nouvelle modalité va faire ses preuves ou non.
Et ça sera adapté aux enfants?
Ça sera adapté aux enfants. Donc, on parle de lentilles cornéennes qu'on jette à tous les jours. Donc, c'est la méthode la plus sécuritaire de porter un verre de contact. Une lentille qui est toujours neuve, 100 % d'oxygénation. Il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de débris, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de trempage dans des étuis mm-hmm. souillés. Donc, c'est vraiment la méthode la plus efficace et la plus sécuritaire de porter un verre de contact. Et on espère que ça va aussi contrôler la myopie.
Une opportunité pour vous revoir dans 3 ans.
Tout à fait.
Dr Langis Michaud, vous êtes professeur titulaire à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal, oui, et président de l'Ordre des optométristes du Québec. Merci beaucoup de votre passage.
Merci à vous.
Au revoir.